La pharmacie de Rivière-Salée cambriolée la nuit dernière. De l'argent a été dérobé et du matériel électronique endommagé. Une enquête a été ouverte. Le gouvernement et l'OPT mettent en place un outil de proximité pour favoriser l'inclusion numérique. Dans plusieurs communes, les usagers pourront se faire accompagner pour réaliser leurs démarches numériques. Que serait Pâques sans chocolat? Les consommateurs affluent dans les chocolateries malgré l'augmentation des prix due à la hausse du cours mondial du cacao. Pour faire face à la pénurie de soignants, la population s'organise. Dans le Nord, un SAMU populaire a été créé pour pallier la fermeture des urgences de l'hôpital de Coumac. Avis aux amateurs de courses hippiques. Après une année d'interruption, la saison 2025 démarre dans 44 petits jours. 9 événements seront proposés entre le 31 mai et le 13 septembre. Bonsoir à tous. La pharmacie de Rivière-Salée, la seule encore ouverte dans le quartier depuis les émeutes de mai 2024, a été cambriolée la nuit dernière. Plusieurs individus se sont introduits dans l'officine. Ils ont forcé les tiroirs caisses pour dérober l'argent liquide et ont cassé des équipements électroniques. Christophe Delest, titulaire de la pharmacie et par ailleurs président du syndicat des pharmaciens, s'interroge sur ce cambriolage qui, fort heureusement, n'a pas empêché la réouverture de la pharmacie ce matin.
Heureusement, dans notre malheur, ils n'ont fait que passer parce que la police est intervenue très rapidement suite au déclenchement de l'alarme et nous sommes reliés à un vigilant qui a fait le nécessaire pour que la zone soit sous contrôle rapidement.
Quel est votre sentiment et votre réaction après cette intrusion?
Suite aux exactions qu'on a subies en mai où on a été les principaux concernés, je pensais pas revivre aussi rapidement de tels actes, mais je suis désabusé parce que nous soignons un grand bassin de la population nouméenne, des gens souvent polymédicamentaires. Donc ils auraient pu mettre à mal encore un système de soins et un système de proximité. Je le rappelle, nous sommes les seuls à exister dans Rivière-Salée actuellement. Sincèrement, ça fait 20 ans que je suis titulaire, je les ai fêtés en décembre 2024. De la pharmacie de Rivière-Salée, j'adore ma population, j'adore mes patients. Quand c'est que ça va s'arrêter, que cette jeunesse en déshérence continue leurs méfaits? Je m'interroge.
Des propos recueillis par Jean-François Baudin. Une enquête a bien sûr été ouverte et les premières investigations pour retrouver les auteurs du cambriolage ont débuté dès ce matin. La suspension de l'interdiction des rassemblements et manifestations, le tribunal administratif qui jugeait ce matin en référé a décidé de suspendre l'arrêté du haut-commissaire Elisabeth Noir.
Le tribunal administratif avait été saisi par la Ligue des droits de l'homme nationale qui avait formé un recours en annulation de l'arrêté pris le 20 mars dernier par le haut-commissaire pour interdire les rassemblements, manifestations et cortèges sur la voie publique sur le territoire des communes de Nouméa, d'Imbéa, Païta et du Mont d'Or. La Ligue des droits de l'homme estime en effet que les citoyens doivent être à même de pouvoir exprimer collectivement par des manifestations leur opinion sur le processus politique en cours, alors, et je cite, qu'aucun élément ne laisse croire à une reprise des violences. Elle considère donc que ces mesures portent une atteinte disproportionnée à des libertés fondamentales, surtout de manière indéterminée. De son côté, le Haut-Commissariat a fait valoir le contexte difficile dans lequel interviennent les forces de sécurité depuis près d'un an, avec une recrudescence des violences commises contre elles en 2025 et avec des incidents sécuritaires persistants. Le Haut-Commissariat qui invoque aussi le maintien d'une tension importante sur le territoire, en particulier en raison des discussions en cours sur l'avenir institutionnel et de l'approche de la date anniversaire du 13 mai 2024. Pour le haut-commissaire, cela justifie que ces forces se consacrent à leur mission prioritaire de maintien de la sécurité, des biens et des personnes. Le juge administratif, lui, n'a pas retenu ces arguments du haut-commissariat et il a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du haut-commissaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Le tribunal devra encore se prononcer sur le recours en annulation formé par la Ligue des droits de l'homme. Il faut préciser que la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie ne s'est pas associée à cette procédure de la Ligue des droits de l'homme nationale et c'est la troisième fois que cela se produit. La Ligue nationale avait déjà formé des recours contre le blocage de TikTok et contre les verrous de Saint-Louis sans être suivie par la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie.
Et autre affaire devant le tribunal administratif ce matin, Elisabeth Noir, une affaire qui concerne la province sud.
Oui, les dispositions concernant l'attribution des bourses de la province sud étaient également devant le tribunal administratif. Il avait été saisi d'un recours de Philippe Michel, qui demandait l'annulation des dispositions prises pour répondre aux exactions commises depuis le 13 mai 2024 et leurs conséquences économiques et sociales. Cela concerne la modification du ticket modérateur et puis la fixation d'une durée de résidence de 10 ans en province sud pour bénéficier respectivement des bourses scolaires des premiers et second degrés, des bourses d'enseignement supérieur et des logements locatifs publics. Une requête qui a été rejetée aujourd'hui par le tribunal administratif. Pour réagir à cette décision, nous sommes en ligne avec Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes satisfait, on imagine, de cette décision du tribunal administratif ?
Oui, tout à fait. C'est important pour nous d'avoir une validation du tribunal administratif. On a pris ces décisions par rapport au contexte économique, social et du coup aux rentrées fiscales de la province sud. Et on a souhaité que soient bénéficiaires des aides de la province, les personnes qui résident depuis 10 ans sur le territoire de la province sud. Et pour nous, c'était important que cette disposition soit en quelque sorte légalisée.
Ça veut dire que désormais, cette disposition est validée et qu'il faudra effectivement justifié de 10 ans de résidence pour pouvoir bénéficier de bourses scolaires.
Exactement. Alors pour les nouvelles demandes, parce qu'on a, un jugement également qui dit qu'on ne peut pas l'attribuer au renouvellement, puisque c'est les conditions d'accès au moment où il y a eu la première demande. Donc pour les renouvellements, ils seront continués comme avant. Et pour les nouvelles demandes, ce sera au bout de il faudra prouver une présence de 10 ans sur le territoire de la province sud.
Concernant la modification du ticket modérateur, il y a là aussi une décision du tribunal ?
Oui, mais toujours dans le même sens. La prise en compte du contexte est importante. C'est-à-dire que les mesures qui sont prises par les différentes collectivités, en l'occurrence la province sud, sont liées à la réalité économique de la Nouvelle-Calédonie, à l'effondrement des recettes fiscales liées à l'effondrement de l'économie après l'insurrection de mai. Et cette insurrection, elle ne peut pas ne pas avoir de conséquences, malheureusement. Et le rôle des élus, c'est d'en prendre compte et de modifier les textes pour adapter les dispositifs d'aide à la réalité.
C'est une décision du tribunal administratif, mais tout est toujours un peu politique en Nouvelle-Calédonie. Le recours avait été formulé par Philippe Michel de Calédonie Ensemble. Ça vous a surpris que ce soit ce parti, ce groupe-là qui attaque une telle décision ?
Non, on est dans la politique politicienne. La réalité, c'est que je pense pas que Calédonie Ensemble aimerait être aux affaires en ce moment. Quand on a une baisse de près de 30% des recettes de la province, il faut avoir le courage de prendre des décisions qui sont difficiles pour tous les Calédoniens aujourd'hui. Mais il n'y a pas un Calédonien qui n'est pas épargné par ce qui s'est passé. Donc c'est dans la, je dirais, dans la tradition de la politique calédonienne. Ça ne doit pas changer nous nos objectifs de redressement de la Nouvelle-Calédonie, parce que tout ça est lié à la situation actuelle. Et si on veut faire de la politique, la première des choses, c'est réussir à sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse dans laquelle elle est, à trouver une solution pérenne et qui donne des vraies perspectives aux Calédoniens. Je préférerais qu'on se concentre là-dessus que par les petites actions politiciennes.
Merci Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, d'avoir été en direct dans ce journal.
Merci à vous.
La résiliation du contrat du GIE Carouya et de Carsud était aussi devant le tribunal administratif. Ils contestent la résiliation de leur contrat de délégation de services publics qui avait été décidé en juillet par le SMTU en raison d'un important déficit aggravé par les émeutes de mai. Maître de Gréland, l'avocat du GIE Carouya, conteste le bien fondé de cette résiliation.
Quand on dit que c'est pas justifié, c'est tout simplement parce que le fait de devoir interrompre avant terme un contrat oblige le SMTU à indemniser les deux concessionnaires de ce qu'ils auraient gagné jusqu'à la fin du contrat. Donc ils sont payés pour rien, pas pour faire de l'activité de transport, mais parce qu'on a interrompu leur contrat avant. Il faut ajouter à cette indemnité, donc que va toucher Carsud comme le GIE, le coût du rachat de tout le matériel, les pénalités fiscales du fait de l'interruption d'un contrat qui était soumis à défiscalisation avant son terme. Juste pour le GIE, ça représente 339 millions. Plus évidemment l'exploitation en cours qui a repris et qui coûte aussi au SMTU. Donc en fait, au lieu d'avoir simplement une exploitation qui paye, il se retrouve à payer l'exploitation, plus deux indemnités, plus le coût du rachat, plus les pénalités fiscales pour deux entreprises.
Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu d'ici 3 semaines. Notez ces rendez-vous sur notre antenne, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'occasion de revenir sur le séjour d'un peu plus de 2 ans ans qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie. Un séjour marqué bien évidemment par les violences insurrectionnelles du 13 mai. Le haut-commissaire sera interrogé sur la façon dont il a vécu ces moments et sur les dispositifs qu'il a mis en place, mais aussi sur la situation de la Nouvelle-Calédonie près d'un an après le déclenchement des émeutes. Le haut-commissaire Louis Lefranc, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et c'est lundi prochain que sera donné le coup d'envoi de l'exercice Croix du Sud 2025. Cet exercice majeur interarmé et interallié réunira 18 nations, dont la France au travers des FANC, et mobilisera de nombreux moyens terrestres, maritimes et aériens. Il s'agira pour l'ensemble des nations présentes de simuler une opération d'assistance humanitaire et de secours aux populations après une catastrophe naturelle. Cet exercice Croix du Sud 2025 a la particularité de se dérouler en Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la première fois à Wallis et Futuna. Nous en parlerons demain à 7h30. C'est en effet le général de division Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui sera notre invité du matin. Le gouvernement et l'OPT mettent en place un outil pour lutter contre la fracture numérique. Dès le 28 avril, des points conseils numériques vont ouvrir dans 6 agences de l'Office des postes et télécommunications du territoire. Un service qui a pour but d'accompagner les Calédoniens dans leur démarche en ligne. Charlotte Coulson.
Le point conseil numérique PCN, c'est un point pour centraliser le conseil pour accompagner la population dans leur démarche. Et le numérique qui représente bien sûr l'innovation en termes de digitalisation des services. Une innovation face à laquelle une partie des Calédoniens peut se retrouver démunie. 40% des personnes n'ont pas d'ordinateur sur le territoire. Pour Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du numérique, ce service permettra donc de simplifier leur démarche quotidienne.
Le but, c'est à la fois de permettre une vraie inclusion numérique en Nouvelle-Calédonie et que les personnes qui sont le plus loin du numérique puissent avoir accès à des ordinateurs, à des services publics au niveau numérique et surtout d'être accompagnées par des agents pour avoir accès aux différents services publics de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est aussi une véritable simplification administrative puisque au sein d'une même agence, vous pourrez avoir des services de l'OPT, de EC, de NRCAL, de la CDE, de la CAFAT, du gouvernement, de la province sud, ce qui permettra d'avoir une vraie simplification pour les Calédoniens et qui s'embêtent pas à chercher là où ils doivent faire leur démarche. On est à la fois dans une démarche de simplification, d'inclusion numérique, mais aussi de baisse de nos dépenses publiques, puisqu'on aura un seul lieu qui permettra de mutualiser à la fois les moyens humains et d'infrastructures.
Le gouvernement a donc signé une convention avec l'OPT et les partenaires du programme. Au sein des agences, les usagers pourront être accompagnés, vous l'avez entendu, dans leur démarche sur les sites du gouvernement, bien sûr, mais aussi de la CAFAT, de la province sud, de NRCAL EEC, de la Calédonienne des Eaux, de la SIC ou encore de la Direction des Finances Publiques de Nouvelle-Calédonie. Pour Thomas Dedecker, le directeur général de l'OPT, qui est présente sur 34 communes du territoire, il s'agit aussi de retrouver cette relation de proximité avec la clientèle.
L'OPT a été un peu en retard sur la digitalisation de ses propres produits et services. On s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins de clients qui venaient dans les agences. Et les agents ont pris le sujet à bras-le-corps et ont même proposé de travailler sur l'accompagnement numérique des populations. On sait qu'on est entre 20 et 30% de population en situation d'illettrisme et numérisme. Et donc c'est vrai que la digitalisation des services publics est très compliquée pour ces populations. Et donc il y avait véritablement du sens pour l'OPT, qui est présent sur l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, de pouvoir offrir ce service, ce lien social. Parce qu'on oublie souvent que le digital rime avec déshumanisation. Et on a quand même encore une population qui a fortement besoin de ce contact humain. On est content au niveau de l'OPT de pouvoir finalement remplir cette fonction.
Thomas Dedecker, le directeur général de l'OPT, qui est bien présent sur 31 des 33 communes du territoire. Dès le 28 avril, les Calédoniens pourront donc retrouver ces points conseils numériques dans 6 communes, à savoir Païta, sur l'agence OPT de Tontouta, à Bouraille, Koné, Koumak, Yaté et Marie.
En très bref, notez que les élus du Congrès se retrouvent demain en séance publique à partir de 8h30. Ils doivent examiner un projet de loi du pays portant sur diverses dispositions fiscale.
RRB 17h59.
8 start-up calédoniennes ont été sélectionnées par le gouvernement pour participer en juin à Paris à Vivatech, le plus grand rendez-vous européen des start-up. 4 d'entre elles sont venues en parler dans les jeudis de l'économie, Jean-François Baudin.
Ces start-up proposent des solutions innovantes dans leur domaine. C'est le cas d'Optimal RH, une solution de gestion des ressources humaines pour les entreprises créée par Atem Bellagi et ses équipes. La présence à Vivatech est importante, nous a-t-il dit, surtout pour se relancer après une année 2024 difficile.
Ce qui s'est passé a affecté effectivement notre développement commercial, vu que lorsqu'il y a eu les émeutes, les ventes se sont arrêtées pendant quelques mois. Après, ils ont repris très doucement. Aujourd'hui, on a retrouvé un rythme comme avant, donc on a eu quand même un retard. Par contre, en dehors de la Calédonie, ça ne s'est pas arrêté. Donc ça a continué, que ce soit en Polynésie française, en France hexagonale et dans les autres territoires qu'on essaye d'explorer. Donc ça reste sur l'échelle de la levée de fonds et de l'investissement qui est en train d'être réalisé, un petit peu impactant mais pas significatif.
Le développement commercial d'une start-up est capital, a rappelé de son côté César Delisle, créateur de Testeum, qui est la première plateforme de test utilisateur mise à disposition des créateurs d'applications web et mobiles.
La première chose que l'on doit faire, c'est trouver ce qu'on appelle le market fit, c'est s'assurer que notre solution répond à un besoin et que quelqu'un est prêt à payer pour ça. C'est vraiment le premier travail de l'entrepreneur, quel que soit le secteur d'activité, mais dans le domaine des startups, on doit trouver une solution innovante. Donc je dirais que selon notre phase, nous au niveau de Testeum, on a passé la question du market fit, on sait déjà qu'il y a de la commercialisation, elle est active. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est se battre contre la concurrence. On parlait d'accélération, on parlait d'être au contact. Et donc c'est de rester à jour au niveau de notre solution, voire d'essayer de garder de l'avance. Et en même temps, de faire du développement commercial, parce que c'est là-dessus qu'on est attendu pour qu'on ait une croissance active et du revenu. C'est comme les fours dans la mine. Une fois que c'est parti, on ne peut plus s'arrêter. Il faut continuer à avancer et continuer la croissance.
La recherche de nouveaux marchés est donc capitale pour les startups, même pour celles qui ont lancé leurs produits récemment. C'est le cas de Bifor, un logiciel de gestion financière et comptable qui fait appel à l'intelligence artificielle, qui a été développé par Olivier Dabou et ses équipes.
On a créé notre solution vraiment pour les entreprises calédoniennes en premier lieu. Et donc, on débute tout juste notre développement commercial ici. Donc forcément, on a fait déjà beaucoup d'investissements. On en a encore à faire pour améliorer nos fonctionnalités. Pour nous, ça sera la première participation à Ivatex. Ça nous permettra d'établir des partenariats, notamment avec des partenaires de ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire des néobanques, notamment, qui peuvent nous permettre d'apporter en Nouvelle-Calédonie de nouvelles fonctionnalités de paiement associées à notre plateforme. Et puis ça nous aussi nous permettra d'essayer de retrouver des investisseurs, parce que c'est des industries qui demandent beaucoup d'investissements avant de trouver un seuil de rentabilité.
Jean-Simon Chaudier se rendra aussi à Vivatech pour trouver de nouveaux marchés. Sa solution destinée à aider les pompiers et les propriétaires de forêts et les collectivités à détecter automatiquement le départ de feu grâce à un réseau de caméras connectées à l'intelligence artificielle se développe et elle est en train d'être déployée dans le département d'Indre-et-Loire.
Aujourd'hui, on est en train de déployer notre solution aujourd'hui dans le département de l'Indre-et-Loire également, où on va surveiller la quasi-totalité du département, c'est plus de 1000 km² de forêt. C'est le premier déploiement à très grande échelle qu'on va faire. Et donc ça confirme d'une part la performance de notre technologie, d'autre part la pertinence aussi de notre modèle économique. C'est aussi ce qui nous permet de nous lancer aujourd'hui dans une levée de fonds qui va viser d'une part à accélérer notre croissance géographique, parce que maintenant on a beaucoup d'opportunités en France, mais aussi en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Et au-delà de ça, on détecte les feux aujourd'hui. On a bien envie, par exemple, de détecter des zones impactées par des inondations, des zones impactées par des éboulements rocheux, etc. Donc on a tout de suite un centre de recherche et développement, finalement, à mettre en place pour pouvoir construire et apporter des nouveaux services. Et donc c'est pour ça, finalement, qu'on va se lancer dans une levée de fonds, maintenant qu'on a passé ces premiers jalons, notamment avec ce marché public en Indre-et-Loire.
Les quatre autres start-up calédoniennes sélectionnées par le gouvernement pour ce déplacement en juin à Vivatech sont OPS Insight, Prospeak AI, Visioun et Holos.
Une émission à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. En bref, l'activité bancaire reste significativement impactée par les conséquences des émeutes de mai 2024. C'est ce que note l'IOM qui a publié les indicateurs sur l'activité bancaire pour le quatrième trimestre 2024. La production de crédit se maintient à des niveaux historiquement bas. En cumul sur l'année, la production de crédit s'établit à 87 milliards de francs, ce qui représente un recul de 48,8% par rapport à 2023. L'IOM note également la baisse de dépôts à vue sur les comptes des Calédoniens. Dans ce contexte qui reste tendu, l'IOM rappelle qu'elle poursuit depuis le début de l'année le cycle de baisse de son taux directeur, alors qu'il était resté stable en 2023 et 2024.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Après le séminaire de la FEDOM, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie dispose de leviers suffisants pour rassurer les investisseurs privés en vue de la reconstruction? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 92% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec la fuite du projet d'accord qui devait rester confidentiel ou les attaques contre les pages Facebook de Sonia Backès et des Républicains calédoniens, nous sommes face à une tentative de déstabilisation. Ils sont 8% à penser que ce n'est pas le cas. Il est 18h05, première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'InfoSoir, Léana Colombo.
Et dans l'actualité religieuse, c'est demain le Vendredi Saint, le jour où les chrétiens commémorent la passion du Christ et sa mort sur la croix avant sa résurrection le jour de Pâques. Cette journée est marquée par le chemin de croix qui se déroule dans la plupart des églises à 15h et par la célébration de la passion qui a lieu à 18h ou 18h30 en fonction des églises. Le Vendredi Saint est pour les catholiques un jour de jeûne et d'abstinence. Pâques, qui est aussi une fête gourmande, ce week-end, de nombreuses familles ne comptent pas se passer de chocolat. Pourtant, depuis quelques années, les prix augmentent au grand dam des consommateurs. En cause, les cours du cacao qui atteignent des niveaux records. Et pour autant, du côté des artisans chocolatiers, cette fête représente une grande partie de leur chiffre d'affaires. Pas question donc de passer à côté. Pour cela, il vaut mieux se préparer à l'avance. C'est ce que préconise Grégory Olot, gérant de la Cabosse d'Or à la baie de l'Orphelinat.
Ça se passe relativement bien pour l'instant. On est content des ventes qui sont faites depuis une semaine. Donc les chiffres sont positifs. On doit tourner à peu près à 35% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment important pour un chocolatier. On ne peut pas ne pas faire Pâques, quoi. Ça fait déjà un mois et demi qu'on travaille sur Pâques. On ne commence pas trop tôt parce qu'on va avoir des produits frais tout le temps. Et donc du coup, c'est un challenge d'arriver à la fin avec suffisamment de stock. Bon, cette année, c'est particulier. On se demande un petit peu où on va parce que la conjoncture, elle est plutôt mauvaise. Avec les événements qu'on a connus l'an dernier, avec l'augmentation du chocolat. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On a un produit qui devient un produit de luxe quand même.
Les prix du chocolat s'envolent donc, mais pas uniquement en Nouvelle-Calédonie. La demande mondiale augmente, mais la production est à la peine. Ce qui a des conséquences directes pour les consommateurs, explique Fabien Pelletier, co-gérant de la Maison Morand au Quartier Latin.
Au niveau mondial, le chocolat, il a dépassé les 12 000 dollars la tonne, donc c'est vraiment énorme, quoi. Bah, c'est une hausse assez conséquente. En quelques années, quelques mois, il a pris plusieurs dizaines de pourcents d'augmentation. Malheureusement, ça se répercute. Le chocolat, on sait qu'il a atteint un niveau de prix qu'il avait jamais atteint cette année. Forcément, au bout d'un moment, on est obligé de le répercuter sur nos produits et ça se répercute sur les clients. Les clients sont quand même fidèles, hein. Ils sont attirés par tout ce qui est qualité. On espère leur répondre, en tout cas.
Malgré ces hausses conséquentes, les artisans chocolatiers tentent de limiter la casse en essayant au maximum de ne pas augmenter leur prix. C'est le cas de Post Chocolat. Son gérant Jonathan Bataille a décidé de ne pas répercuter ces augmentations sur ses clients cette année.
La hausse du chocolat et la crise du cacao est énorme depuis mars 2024. On a pris grosso modo plus de 200% sur l'achat de nos matières premières. Donc dans un modèle économique comme la chocolaterie, quand votre matière première prend 200% en l'achat, c'est une vraie crise qui se pose. J'ai réussi à trouver des solutions qui seront provisoires, que je ne pourrais pas faire perdurer, mais ça nous a permis de conserver la qualité de notre travail, la qualité des ingrédients qu'on utilise et surtout le prix que je n'ai pas bougé cette année. Je fais, moi, l'effort cette année de maintenir un prix qu'on a eu depuis l'ouverture parce que j'estime qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire des efforts, à commencer par nous, les commerçants.
Dans les chocolateries, les clients affluent et repartent avec des sacs remplis de gourmandises chocolatées. Œufs, cloches, lapins, il y en a pour tous les goûts et pour tous, le plaisir d'offrir reste intact.
Moi, ce que j'ai acheté, c'est pour effectivement la famille et puis pour moi parce que j'adore le chocolat, pour mon fils, sa belle-fille et puis pour faire plaisir parce que c'est Pâques.
Qu'est-ce que vous avez pris comme chocolat?
Alors du chocolat noir exclusivement parce que je suis une passionnée de chocolat et j'estime que le chocolat noir noir, ça vaut le coup d'être goûté.
Trois chats en chocolat, au lait. C'est l'occasion de se goinfrer de chocolat.
Et donc les chocolats, c'est chaque année, malgré la hausse des prix ?
Ben, on en prend des plus petits pour garder un budget à peu près équivalent, voilà.
C'est très important, ça met un peu de joie dans les cœurs, c'est quelque chose de bien, oui.
S'il y a quelques années, les chocolatiers pouvaient se permettre certaines originalités dans leur création, notamment avec du chocolat blanc ou dulce pour les connaisseurs, les artisans ont pour la plupart décidé de s'en tenir au classique, soit le blanc, le noir ou au lait. Le territoire connaît une pénurie de soignants. Cela fait des années que les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'attractivité du territoire, notamment lié à l'insécurité et aux incivilités à répétition. Alors pour faire face à cette pénurie de soignants et à la fermeture de certaines structures, des professionnels du secteur ont décidé de donner de leur temps pour soigner les gens bénévolement, Charlotte Coulson.
Dans le Grand Nord, le SMUR populaire a vu le jour en fin d'année dernière. L'équipe compte 2 médecins en activité, une dizaines d'infirmiers et des bénévoles qui interviennent sur les accidents du quotidien. Écoutez Véronique Besançon, infirmière à la retraite, qui ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette situation d'urgence.
On ne pouvait pas rester là, regarder les gens mourir devant notre porte. C'était pas possible, quoi. On s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose. Les urgences de l'hôpital de Coumac sont fermées. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans aux urgences de nuit à l'hôpital. Et on dit, non, mais... On voyait tellement de monde qui venait dans nos urgences, on ne peut pas ne plus rien faire. Donc à partir de ce moment-là, les pompiers nous ont dit, nous, on a une ambulance qu'on peut mettre à disposition avec un chauffeur. Et après, ça a été les bonnes volontés. Donc on a des personnels de santé, on a des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui viennent pour qui nous aident dans la logistique, qui viennent avec nous sur les interventions parce qu'il faut relever les identités des gens, etc. On ne se déplace que sur demande du SAMU. C'est-à-dire qu'on prend de notre temps, mais de notre temps de repos aussi, parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça, quoi. On a fait ça, nous, pour venir en aide aux gens, parce que les gens de Poum, les gens de Ouigua, ils sont plus à une heure ou une demi-heure d'un hôpital, mais ils sont à une heure de plus, c'est-à-dire deux heures et demie, c'est pas possible.
Véronique Besançon affirme que la population soutient cette initiative, à savoir que le SMUR populaire fonctionne sur fonds propres. Plusieurs entreprises ou collectifs ont également fait des dons à l'association. Cet élan de solidarité réchauffe le cœur des soignants bénévoles qui ne comptent pas leurs heures. Ils espèrent bien sûr que les urgences rouvriront dans la région, mais selon Kevin Leclerc, sapeur-pompier professionnel et membre fondateur du SAMU populaire, le SMUR est un service qui devrait être développé dans le Grand Nord, seulement dans de bonnes conditions.
Pour le futur, alors c'est une situation qui est très ambivalente. Hein. Tous les soignants, on en discutait encore hier soir, en fait, ils veulent que ça s'arrête. Parce que si ça s'arrête, ça veut dire que nos urgences sont revenues. Mais on n'a pas envie de s'arrêter tout pendant que ce n'est pas revenu, parce que ça voudrait dire qu'on lâcherait la population. Ensuite, on s'aperçoit que cette ambulance, c'est un début de SMUR qu'on n'a jamais eu sur Coumac. Donc, c'est les premières fois aussi qu'on a des accidents de la route et on peut avoir un médecin et un infirmier aussi rapidement sur un accidenté de la route. Avant, on ne l'avait pas. En discutant avec nos élus, en discutant avec les médecins, les infirmiers, les bénévoles, il y a une volonté de potentiellement pérenniser tout ça parce que c'est vraiment un plus pour la population. Mais pas dans les conditions actuelles.
Le collectif SOS du Nord, Santé en péril et le SAMU populaire ont décidé de multiplier leurs actions en donnant notamment des cours de secourisme aux populations pour éviter les drames liés à cette dégradation de l'offre de soins. Je rappelle que tout le mois de mai, les urgences seront fermées à Coumac et à Pointe-d'Imier. Seules les urgences de Conné seront ouvertes 24 heures sur 24.
Le décès d'une figure calédonienne. On a appris la mort mercredi d'Herbert Coursin à l'âge de 95 ans, Jean-François Baudin.
Herbert Coursin était issu d'une vieille famille calédonienne et l'historien Luc Steinmetz l'a bien connu, notamment parce qu'il partageait la même passion pour l'aviation.
Ce qu'il faut retenir d'Herbert, d'abord parce que c'est son œuvre majeure, c'est qu'il a été avec d'autres en 1954-55 le fondateur d'une compagnie aérienne qui s'appelait la Transpac et dont l'objet était d'assurer la desserte aérienne des îles Loyauté à partir de Nouméa et même éventuellement de certains points de la Grande Terre. Et cette compagnie s'est développée et elle est devenue Air Calédonie, qui a dépassé ses 70 ans l'année dernière. Je me souviens d'ailleurs que quand j'évoquais avec Herbert des souvenirs sur Transpac et Air Calédonie, il me disait que sa fierté, outre d'en avoir été le créateur, c'est en même temps de constater avec beaucoup de bonheur que cette compagnie n'avait jamais eu d'accident en 70 ans d'existence. Et ça, je tiens tient à le rappeler.
Et pour la petite histoire, Herbert Courcin a continué à voler comme pilote jusqu'à ses 85 ans. Outre sa passion pour l'aviation, Herbert Courcin avait trois autres engagements dans sa vie professionnelle et publique, rappelle Luchstein Metz, la Chambre de commerce et d'industrie, la vie associative et son métier d'avocat.
Il a été pendant longtemps bâtonnier de l'Ordre des avocats à Nouméa. Et il était très apprécié, d'abord par ses connaissances du pays, par ses connaissances juridiques, et puis également par sa grande courtoisie. C'était une de ses qualités. Et puis enfin, ça a été un grand sportif. Et de ce point de vue-là, il s'est beaucoup engagé dans la vie associative, pas seulement du sport, je pense au Rotary, dont il a été fondateur aussi, mais dans les équipes de football calédoniennes, il avait comme compagnon de jeu, dans une équipe de Nouvelle-Calédonie, Jacques Lafleur, par exemple, Gabi Kérol, Roger Cadour, Yves Agès, enfin tous ces anciens, aujourd'hui disparus. Il en était peut-être un des derniers ou le dernier. Donc un sportif qui a fait également du water-polo, qui a fait également du tennis. Et donc un homme complet, c'était vraiment une personnalité calédonienne qui sera évidemment regrettée et qu'il ne faut pas oublier. Il fait partie, à sa manière, des bâtisseurs de la Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie salue la mémoire d'Herbert Courcin en écrivant que c'est une page de l'histoire de l'aérien calédonien qui se tourne. Dans un communiqué, le gouvernement rend hommage à cette figure marquante de la vie économique, sociale et associative de la Nouvelle-Calédonie qui aura marqué de son empreinte plusieurs générations de Calédoniens. À travers son parcours, Herbert Courcin a contribué à façonner une Nouvelle-Calédonie entreprenante, solidaire et ouverte, ajoute le gouvernement, qui salue la mémoire d'un homme d'engagement et de conviction. À sa fille Vanessa et à sa famille, Radio Rythme Bleu tient à adresser ses plus sincères condoléances.
Et notez que les obsèques d'Herbert Courcin seront célébrées samedi à 9h15 au salon funéraire suivi de l'inhumation au cimetière du 4e kilomètre à 11h. La veillée aura lieu demain vendredi de 15h30 à 19h30 et elle reprendra samedi de 8h à la levée du corps. Il est 18h16, seconde pause avant de voir le reste de l'actualité. A tout de suite.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques?
Quel jeu de Pâques, chérie?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région, en Nouvelle-Zélande, les projets de vacances pascales sont sérieusement perturbés pour des milliers de personnes à cause de l'ex-cyclone Tam qui n'est plus aujourd'hui qu'une violente dépression tropicale. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La province septentrionale de l'île du Nord et la péninsule de Coromandel ont jusqu'à présent été les plus touchés par le très mauvais temps que la dépression a causé sur son passage. Toitures endommagées, âmes déracinées, réseaux énergétiques perturbés. Plus de 25 000 usagers étaient sans électricité ce matin et certains le resteront pendant toute la trêve pascale. Les ferries qui sillonnent la baie d'Auckland ont annulé plusieurs de leurs services et de nombreux vols ont subi le même sort à l'aéroport, ce qui a contrarié les projets de voyage de milliers de personnes. Une houle de 5 à 6 mètres a été observée au large, des vents de 120 km/h ont été enregistrés, des inondations se sont produites et plusieurs axes routiers de l'île du Nord ont été interdits au trafic. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Retour sur le territoire avec du sport et cette bonne nouvelle, la saison des courses hippiques démarre dans 44 jours. Après l'annulation de la saison l'an passé suite au mouvement insurrectionnel, la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie relance la discipline. 9 réunions de courses seront proposées dès le 31 mai et jusqu'au 13 septembre. Les détails de Nicolas Schneider, il est président de la FCHNC.
Il est important pour la Fédération des courses hippiques de repositionner dès cette année 2025 donc une saison de course, important pour la filière équine dans son ensemble et puis pour les socioprofessionnels du monde des courses, de se projeter et de pas mettre un coup d'arrêt qui pourrait être néfaste à long terme pour l'élevage de pur sang. Une saison épique qui est construite sur 9 journées de course sur l'ensemble des hippodromes de l'intérieur, Nouméa bien sûr la capitale où il y aura deux réunions également sur Boulou-Paris, deux réunions à la fois et trois réunions sur Bouraille, la 9e journée étant assurée par le comité hippique du Nord qui se déplace sur Bouraille pour organiser sa réunion annuelle.
Une saison hippique 2025 construite sur le même schéma que les années précédentes, notamment celle prévue initialement pour 2024. En revanche, les contraintes budgétaires ont obligé la fédération à revoir le format, explique Nicolas Schneider.
Oui, donc les contraintes budgétaires, effectivement, il y aura beaucoup moins de classiques cette année. On est sur des dotations imputées et qui est raisonnable dans le contexte économique dans lequel on évolue. Les réunions de courses qui prévoient donc 6 courses de galop avec des courses de catégorie d'âge, donc des courses réservées aux 2 ans, aux 3 ans et aux 4 ans. Et puis bien sûr, on a maintenu les courses ouvertes aux importés, mais également aux chevaux locaux qui trouveraient pas d'autre place. Une course de trot qui sera proposée au public, ainsi que la traditionnelle course de stock qui viendra alimenter donc ces journées.
Et parmi les différents rendez-vous, on notera ces événements incontournables en Nouvelle-Calédonie, la Casino Coupe Clark le 10 août et la Bouraille Cup le 12 juillet.
On peut déjà annoncer effectivement que le point d'orgue de la saison sera une nouvelle fois la Casino Coupe Clark. Hein. En préparation, un mois avant, il y aura également la Bouraille Cup, hein, donc deux classiques bien historiques des courses en Nouvelle-Calédonie et qui sont dans le patrimoine culturel de notre activité. Et puis, autour de ces deux événements, les comités feront le maximum d'efforts pour proposer effectivement sur chaque journée une course un petit peu référente, assurant la promotion de chaque événement.
Nicolas Schneider, président de la FCHNC. Notez donc dans vos agendas que la saison 2025 des courses hippiques démarrera le samedi 31 mai. Ce sera du côté de l'hippodrome de Boulou-Paris. 18h21 et c'est au galop que nous découvrons la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Allons-y. Alors, cette nuit, des nuages circuleront sur la pointe sud-est et aux Loyautés. Ailleurs, la nuit sera bien étoilée. Sur l'ouest, en deuxième partie de nuit, des passages nuageux masqueront parfois la lune. Sur le nord-ouest et la pointe nord, le vent de sud-ouest moulira en cours de nuit entre 5 et 10 nœuds. Sur l'est, il sera voisin de 5 nœuds, mais en sortie des vallées, des accélérations entre 10 et 15 nœuds seront possibles. Ailleurs, le vent de secteur ouest dominant soufflera proche de 10 nœuds localement sur la pointe sud de l'île des Pins entre 10 et 15 nœuds et plutôt proche de 5 nœuds sur marée. Les températures minimales iront de 18 à 21 degrés et localement jusqu'à 23 degrés. Ce sera sur la pointe nord. Demain matin, sur l'ouest, les marées des nuages circuleront accompagnées de rares et faibles précipitations, principalement sur marée. Sur les autres régions, le soleil l'emportera. Sur l'est, à l'abri de la chaîne, le vent sera souvent faible de l'ordre de 5 nœuds. Sur le sud-ouest et l'île des Pins, le vent d'ouest sera voisin de 10 nœuds. Ailleurs, il soufflera de secteur sud-ouest autour de Saint-Neuléana.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est la fin de cette édition.